Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Estelle Midi, comme tous les jours, midi 15h sur RMC, RMC Story, le canal 23 de la TNT. Autour de moi, il y a toujours Alfred Orange, journaliste RMC, son confrère, journaliste RMC également, Frédéric Hermel, Pierre Rondeau, économiste du sport, et Perico Legas, journaliste à Marianne. Dans un instant...
J'envoie des... Oui. Excuse-moi, j'étais avec mon portable, je suis désolé, parce que j'envoie des chansons de Renaud à Pierre pour lui faire un petit peu son éducation.
Mais il connaît pas, mais on va lui en parler.
Il connaît pas le camion, il connaît pas la médaille, il connaît pas c'est quand qu'on va où.
On parle beaucoup du répertoire de Renaud, là, dans notre sujet.
C'est pour ça, non, mais je dis, mais faut éduquer la jeunesse quand même.
Eh oui, le mariage du chanteur Renaud, donc, 30 ans d'écart entre les époux. Renaud a épousé Cerise, Renaud, 71 ans, 72 maintenant, et 42 ans pour sa nouvelle femme.
42 ans au prune.
30 ans d'écart entre les époux, est-ce que c'est choquant? Vous nous appelez au 32-16 à 14h30, RMC s'engage avec vous. À 14h, non, c'est pas du tout, c'est RMC Conso à 14h30. Et puis à 14h40, les immanquables d'Alfred. Et Alfred, il faut le dire, on joue cette semaine sur RMC.
On joue parce que demain, Rémi, mardi 7 mai, le PSG affronte le Borussia Dortmund en demi-finale retour de la Ligue des Champions au Parc des Princes. Et sur RMC, on vous propose de le vivre de l'intérieur avec l'expérience RMC. Avant le match, visite des studios RMC, rencontre des équipes, puis direction le Parc des Princes pour assister au match avec la personne de votre choix. Enfin, vous serez dans les coulisses de l'after sur RMC pour débriefer le match en direct. Dès que vous entendez ce signal... Cette musique de la Ligue des Champions, à partir de ce moment-là, vous aurez 5 minutes pour envoyer PSG au 7-32-16. PSG au 7-32-16, vos places pour PSG Dortmund se gagnent uniquement sur RMC.
RMC, Estelle Midi.
Lola.
Oui, je connais. Ça, tu connais?
Oui, ça, je connais.
Il y en a des dizaines merveilleuses.
Vraiment. Le mariage du jour, le mariage de Renaud. C'était ce week-end, le chanteur a épousé Cerise, 42 ans, de 30 ans. Sa cadette, comme on dit, les importants écarts d'âge entre les époux. Bah, c'est pas si rare que ça, Alfred.
Oui, ce mariage traduit une donnée en France. En 2017, ce sont les dernières données de l'INSEE, 11% des mariages étaient célébrés pour des époux d'au moins 10 ans d'écart. Et dans deux tiers des mariages célébrés, l'homme est plus âgé que la femme. Alors, pas dans les proportions du mariage de Renaud, mais la tendance est là. Pourtant, cette différence d'âge importante peut parfois influer sur la stabilité du couple. Une étude américaine publiée dans le magazine The Atlantic assure qu'une différence d'âge de 5 ans augmente de 18% la probabilité de divorce par rapport à un couple né la même année. L'une des raisons, pointent les chercheurs, c'est l'argent et la projection du couple, puisque bien souvent, les époux ne se retrouvent pas dans les mêmes étapes de leur vie et ne se projettent donc pas de la même manière.
Le mariage du chanteur Renaud, 30 ans d'écart entre les époux. Est-ce que c'est choquant? Vous nous appelez au 32-16. Perico, je me tourne vers toi.
Oui.
Parce que je sais que tu es très amoureux.
Oui.
Très heureux.
Oui.
Avec ta compagne.
Oui.
Et que vous avez un écart d'âge. On peut le dire?
Alors, je t'apporte une précision.
Ouais.
Avant, j'ai eu d'autres vies avant mon épouse actuelle, c'était moi le plus jeune, et souvent l'écart était dans l'autre sens. Donc j'ai connu les deux expériences.
Et là aujourd'hui, on peut dire combien il y a d'écart?
Alors, j'ai un principe, j'allais dire, mathématico-philosophique, c'est possible jusqu'à que ça puisse être ta fille. Là, ça pose un problème. Voilà. Mais, il n'y a pas d'enjeu en amour. Il n'y a pas d'âge en amour. On a des merveilleuses histoires d'amour. Et je connais des gens connus qui ont plus de 30 ans, quelquefois, d'écart d'âge.
Ah ouais.
Alors, vous savez, c'est tellement subtil. Ça peut être les sentiments ont une forme d'expression et de relation entre deux êtres humains qui sont pas forcément, c'est pas forcément un amour à connotation sexuelle. Ça peut être un amour uniquement sentimental. Ça peut être platonique. Mais enfin, on a le droit de s'aimer à tous les âges. Attention, parce que il y a eu ensuite des dérives sur les enfants. Attention. Il y avait beaucoup de gens qui aujourd'hui rencontrent des difficultés en disant la jeune fille était mineure, mais c'était vraiment de l'amour.
Mais là, c'est la loi.
C'est pour ça. 30 ans, je vais dire que c'est un maximum. J'ai connu 40 ans.
D'écart.
Oui, 40 ans d'écart. Et c'était.
Et est-ce que. Alors, on va mettre les pieds dans le plat. On va pas se mettre autour du pot, Pierre-Rigaud. Est-ce que. On se pose pas des questions quand même. Quand tu vois Je vais dire les choses, voilà, quand tu vois un homme d'une certaine notoriété, qui a une certaine carrière. D'ailleurs, je parle pas que de, non mais je parle pas de Renault précisément, il y a notamment Renault, mais ça peut être un chef d'entreprise par exemple, imaginons quelqu'un qui a bien réussi sa vie, qui arrive je vais jusqu'au bout, qui arrive à un certain âge et qui voilà, on va dire allez, 65, 70 ans, peu importe, mais qui se marie avec une jeune femme de 20, 25 ans. Est-ce que vraiment elle est amoureuse? Voilà, on se pose la question. Est-ce qu'elle est amoureuse de lui, mais aussi de ce qu'il représente, de ce qu'il détient?
En un mot, en 2024.
Et puis d'abord, ça peut être dans les deux sens.
Parce que je connais le cas.
Ça peut être dans les deux sens.
En un mot, en 2024, parce que je connais le cas. 60 ans, c'est pas vieux, c'est plus vieux. Et 20 ans, voilà, c'est grand. Et il y a, voilà, 20 ans, donc 60 et 20, ça fait 40 ans d'écart, ouais. C'est comme s'il y en avait 15. Mais non, c'est un cas très précis. La personne de 60 ans est très jeune, la personne de 20 ans est très mûre, et on sent pas les 40,
mais non,
les
40 mais non, ans d'écart.
Ensuite, toutes les réserves sont acceptables et je les accepte.
60 et 20, mais non.
Oui, non, mais je te dis que c'est une exception, mais je te dis que ça se passe bien, c'est tout. Voilà.
Mais d'accord, mais forcément, et je rejoins Rémi, forcément on se pose la question, 60 et 20 et même 30 ans.
D'ailleurs, je tiens à le préciser.
Ça pourrait être une petite fille.
Je tiens à le préciser. Pierre, pour pas voilà qu'on accuse de ce qui n'est pas, j'ai pris l'exemple d'un homme âgé avec une femme très jeune. Ça peut être une femme bien très âgée qui a une carrière,
La règle, et Péricolacité, moi je me l'applique, mais en tout cas, c'est jamais arrivé que je puisse sortir avec une femme plus vieille que moi. Si ça peut être ma mère. Ou si l'homme ou la femme, on peut considérer que la personne avec qui il va se marier pour être sa fille ou son fils. Dès lors qu'il y a, tu peux admettre cette possibilité, c'est rédhibitoire, c'est non. Ouais. Donc 17, 18, 19, 20, 30, 40, non. Dès lors que ça peut être ton fils ou ta fille, c'est non, c'est pas possible.
Ah oui, même jusqu'à même 18 ans, enfin c'est mort. 17 ans, c'est mort.
C'est pas possible. Comment tu veux construire quelque chose de durable? Les Américains, c'est intéressant parce que les Américains, ils ont, c'est pas une loi, hein, c'est dit comme ça parce qu'il m'est arrivé effectivement d'avoir des contacts avec eux directement, et dans leur calcul, c'est ton âge divisé par 2 plus 7. L'écart d'âge maximum. Ton âge divisé par 2 plus 7. Donc Renault, 72, donc 36 plus 7, 41, et là, en l'occurrence, 42. Donc là, les Américains te diront que ça passe. Ton âge divisé par 2 plus 7. Moi, ma règle, je me l'applique, c'est tant que c'est. Si ça peut être ma mère, c'est pas possible. Si ça peut être ma fille, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Le plus grand.
Je vais essayer de me projeter. Imagine quand tu as. Aujourd'hui, tu as quel âge?
36.
36. Dans 10 ans, tu en auras 46. Imagine que tu rencontres une femme de 31 ans. Tu diras non.
Mais même, j'imagine qu'au au-delà de ça, j'imagine qu'au niveau de la.
Ça lui arrive.
Moi, je le vois très bien. Par exemple, moi, le plus grand écart que j'ai pu faire, je vais aussi me dévoiler, j'avais 30 ans, elle avait 21.
C'est rien, on me dira.
Mais moi, je vois une différence de quelqu'un de 20 ans, 25 ans par rapport à ce que je suis à 35 et quand j'en aurai 45, 50. Il y a aussi une question de maturité, une question d'expérience de vie, une question de personne. C'est pas juste, elle est jeune, donc elle est fraîche. Non, c'est juste que la personne avec qui tu es, s'il y a 40 ans d'écart, 30 ans d'écart, il avait 30 ans quand elle est née, sa femme. T'as vécu toute ta vie déjà à 30 ans. T'as vécu plein d'expériences. T'as beaucoup plus de maturité. Donc à dire non, c'est l'amour. Je suis désolé. Et derrière, tu as raison de le dire. Forcément, on va se poser des questions.
À 31 ans, t'as pas vécu toute ta vie. Quoi.
Non, mais d'accord. Mais ouais. Là, aujourd'hui, il y en a 71. Il en a 71, on en a 42. Ouais. Non, c'est pas possible. Et on se pose la question quand on voit en plus Renault. Je suis désolé, mais il est pas très en forme. Non. On va aussi se dire, est-ce qu'elle le fait pour des raisons autres que vraiment sentimentales? On se pose forcément la question.
Forcément.
Tu es le printemps, moi l'automne. Mon cœur se. Attends.
Bah, ben c'est pas.
Ton cœur se prend, le mien se donne.
C'est pas du Renault, ça.
Ça s'appelle Mourir d'aimer, Charles Aznavour, qui était la musique d'un film merveilleux d'André Caillat. Ça s'appelait Mourir d'aimer. C'est une histoire vraie. Cette prof qui s'appelait Gabrielle et qui avait une aventure d'amour, une histoire d'amour avec un de ses élèves.
Oui, enfin, qui était mineur.
Emmanuel et Brigitte aussi.
Ça avait donné un grand scandale en France et on avait interrogé à l'époque le président de la République qui s'appelait Pompidou, mais qui avait cité Éluard. En parlant d'amour par rapport à ça. Moi, pardonne-moi Pierre, tu sais que je t'adore, mais je suis très gêné par ce que tu viens de dire, en fait.
Je suis étonné, moi.
S'il te plaît, je suis très gêné, en fait. C'est pas 30 ans d'écart qui me gêne, c'est que un jeune homme comme toi, un mec bien, parce que t'es un mec bien, puis juger les gens comme ça, ça me gêne.
Moi,
je ne suis pas de l'amour. Puis avoir des critères comme ça, on calcule avec des chiffres. Ça, c'est très américain. La moitié de ton âge plus 7, enfin, je trouve ça terrifiant, en fait. L'amour est un don. C'est un cadeau qui arrive comme ça, qui peut tomber sur, qui tombe au coin de la gueule. Eh ben ça répond pas à des
bisounours.
Donc moi jamais je me permettrais de juger.
Lui.
Jamais je me permettrais de juger 30 ans d'écart dans un sens dans l'autre, 20 ans d'écart, 10 ans d'écart, non. Et puis ce que les gens peuvent penser, c'est leur problème.
Fred sans aller jusqu'au jugement, Fred. Mais est-ce que j'allais dire naturellement, humainement, il n'y a pas une question qui se pose quand tu vois un vieux monsieur avec une jeune femme ou une vieille dame avec un jeune homme.
Mais sa culture, son expérience peut faire partie de son charme.
Mais est-ce que tu peux comprendre?
Mais que les gens aient des sales idées dans leur tête, c'est leur problème. Le problème, c'est pas ce que vivent ces amoureux. Avec la différence d'âge. Le problème, ce sont les préjugés des gens et ce que eux-mêmes projettent en disant « Ah, cette fille avec lui parce qu'il a de l'argent. » Bah non, peut-être pas, quoi. Bah non. Peut-être il y a des femmes qui aiment les hommes plus vieux, il y a des hommes qui aiment les femmes plus âgées, bien entendu, parce qu'il y a une autre forme de partage. Moi, je connais des femmes jeunes qui s'ennuient avec des mecs de leur âge, des femmes de 30 ans, qui trouvent que les mecs de 30 ans sont, surtout aujourd'hui, sont totalement ennuyeux et qui préfèrent des hommes de 50 ans et plus. Mais qui sommes-nous pour juger les gens? Enfin, vrai, je suis vraiment choqué. Et je me posais la question tout à l'heure quand j'ai reçu le programme de l'émission. Je me dis qu'il y a 10 ans, on se serait pas posé la question.
Oh, c'est pas vrai.
Mais tu sais,
non, je suis pas d'accord avec toi.
Il y a un retour d'un certain puritanisme.
Je suis pas d'accord avec toi. Souviens-toi,
pour
l'émission, je donnais l'exemple. Souviens-toi d'Eddie Barclay.
Mais bien sûr.
À l'époque, il y avait déjà polémique. Eddie Barclay, qui avait 70 ans, qui avait des.
Laetitia et Johnny Hallyday, moi, il y a 15 ans, on en parlait.
Et ça a été long, très. Bravo, tu viens de donner le contre-exemple.
Oui, mais on polémiquait déjà la différence d'âge.
Grande histoire d'amour.
Et on
c'est une petite.
Et il y avait déjà des débats sur la différence d'âge.
Ridicule.
Et donc ça existait déjà. Ne dis pas que c'est nouveau. Ne dis pas que
ça a duré. Jusqu'à
c'est
la mort.
Pas du puritanisme outre-Atlantique.
Si, mais pas en même temps, on comprend rien.
Je trouve qu'on revient à un jour de
non.
Fois, ça me choque.
Non.
Et jamais. Et s'il y a bien un domaine dans lequel on n'a pas le droit de juger les gens, c'est bien l'amour. L'amour est quelque chose de si personnel, de si intime, qu'on n'a pas le droit de juger. Je pense que c'est de la jalousie quand on regarde l'autre comme
déjà,
ça.
Déjà, je te rejoins, le cœur a ses raisons que les raisons ignorent. C'est vrai, on n'a pas à juger globalement. Après, entre nous, on peut en discuter. C'est le cœur du débat actuel. C'est pas juridiquement. Quand je te dis ton âge visé par 2 plus 7, c'est pas une loi, c'est pas une obligation à ce que tu respectes cette différence d'âge. Oui, mais qui existe parce que dans la presse nord-américaine, ils aiment beaucoup faire des espèces de concepts. Comme on l'a vu tout à l'heure,
le vrai truc, c'est pour l'idéal pour l'homme. Donc c'est très machiste comme vision de cette vision américaine. C'est la moitié de ton âge plus 7. C'est ça.
Non, mais c'est aussi
pour l'homme.
Non, mais c'est aussi pour la femme.
Non. Dans la véritable au départ, le vrai truc aux États-Unis, c'est ça.
Le mariage du chanteur Renaud, 30 ans d'écart entre les époux. Est-ce que c'est choquant? On vous pose la question. Vous nous appelez au 32-16 et Marc nous rejoint. Bonjour Marc.
Oui, bonjour à tous.
Bonjour Marc, bienvenue dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Vous nous appelez depuis la région parisienne, on est dans le Val-de-Marne, c'est ça Marc?
Oui, c'est ça, tout à fait.
Vous faites quoi dans la vie Marc?
Je suis formateur moto.
Très bien, formateur moto, bien. Marc, en couple?
Oui, pas marié, mais en couple, oui.
Vous avez une différence d'âge de combien?
32 ans.
32 ans? Oui. Vous avez quel âge Marc, vous?
J'en ai 59.
Et elle, donc
27.
27, ouais.
Ça fait 2 ans et demi.
Comment vous vous êtes rencontrés?
Sur un site.
Ah oui, je posais la question parce que je me dis pas... Bah, ça a pu être au travail en même temps, vous fréquentez pas forcément les mêmes lieux. Mais oui. comment ça se passe? J'ai envie de vous demander tout simplement. J'ai l'impression d'être un peu intrusif, je suis désolé Marc, mais bon, non, c'est mais le sujet.
Super bien, vraiment. Super bien.
Est-ce que... Lorsque vous vous êtes rencontré, Marc, ça a été quoi? Ça a été un coup de foudre, non? Ou je sais pas, ça a pris du temps?
En fait, c'est elle qui m'a abordé. Parce que je rejoins sur ce qu'avait dit Fred.
Ouais.
Bon, les hommes de son âge, à l'époque où elle avait 25 ans, s'ennuyaient avec. Elle les trouve, c'est des gamins, elle les trouve immatures.
Donc elle était plutôt dans la démarche de trouver de quelqu'un de plus âgé qu'elle?
Voilà, c'est ce qu'on appelle un Silver Fox.
Silver Fox, d'accord.
Voilà. Renard argenté. Si
vous Renard argenté.
Voilà.
Et donc, quand vous vous êtes rencontrés, bon, elle était dans cette démarche, peut-être pas avec autant d'écart, si?
Pas forcément, quoi.
Mais ça la dérangeait pas, en tout cas.
Un homme plus âgé, de toute façon, dans tous les
d'accord.
cas.
D'accord. Et vous, vous êtes retrouvé face à une jeune fille, une femme?
Une jeune femme. Est-ce que vous, ça vous a questionné?
Non, pas du tout. Moi, j'ai trouvé très jolie. Je vais peut-être faire bondir monsieur, mais elle est très fraîche. Et même, ça jouait de vivre un peu d'insouciance. Voilà, c'est... Non, c'est...
Et vous étiez dans cette... Est-ce que vous étiez aussi dans cette recherche de quelqu'un de plus jeune?
Oui.
D'accord.
De toute façon.
Donc ce sont deux recherches qui sont... Enfin, qui se sont rencontrées, deux recherches communes qui se sont rencontrées. Oui. Vous vouliez un peu d'insouciance, oui. Comme vous dites, c'est un peu de... Voilà, de légèreté, mais c'est pas péjoratif quand je dis ça du tout, hein. Mais d'insouciance, de légèreté, et elle voulait de l'expérience, et ouais, c'est voilà. Ça.
Mais au début, c'était quand même de la légèreté. Au départ, quand même, hein.
Et après, autour de vous, Marc. Ah.
Ben, en fait, mes enfants, ils m'ont pas forcément bien pris au début.
Vous avez des enfants de quel âge?
29, mon fils, et ma fille, 24 ans.
Ouais.
Bon, je ne l'ai pas présenté tout de suite, parce que j'attendais quand même
que
ce soit un peu plus solide, ouais, on va dire.
Bien sûr.
Et la première chose qu'il m'a dit, il me dit « Papa, t'exagères. » Voilà, il me dit « Tu fais une crise. » Et je lui dis bah, « Peut-être, oui, on verra bien. » Et puis, avec le temps, c'est passé. Voilà.
Restez avec nous, Marc. Témoignage très, très intéressant. Restez avec nous parce que je voudrais accueillir le docteur Catherine Solano, évidemment.
Ah, bah oui, Solano.
Bonjour, Catherine. Bonjour, Catherine.
Merci
de nous rejoindre. Sexologue, cofondatrice de Doctical, la plateforme de télésanté. On a l'habitude, évidemment, de vous avoir avec nous dans Estelle Midi. Catherine, vous entendez le témoignage de Marc?
Oui, tout à fait.
Il est quand même très intéressant, ce témoignage.
Oui, parce que effectivement, ça veut dire que parfois c'est deux personnes qui se rencontrent et qui se complètent, même si elles ont une différence d'âge, et peut-être même grâce à la différence d'âge qu'elles se complètent. Donc, et je trouve pas qu'on ait régressé au point de vue du jugement, qu'on soit plus puritain. Je trouve qu'au contraire, on accepte mieux les différences d'âge maintenant. Peut-être grâce à monsieur et madame Macron aussi, je ne sais pas, mais je trouve qu'il y a beaucoup moins de jugement. Et puis, moi, j'ai pas entendu beaucoup de jugement de par les personnes qui sont là, mais plutôt, il y a des personnes qui disent, moi, je pourrais pas être avec quelqu'un de plus jeune ou de plus âgé. Ça, c'est pas vraiment un jugement, c'est un point de vue personnel.
Oui,
et on peut dire, moi, je pourrais pas, mais je juge pas les gens parce que c'est vrai qu'il y a plus de divorces chez les personnes qui ont une plus grande différence d'âge quand ils se marient. Ça augmente, plus la différence d'âge est importante, plus le divorce est à risque.
Mais, ouais. Allez-y, Catherine, allez-y.
Voilà, mais quand on est en couple, en fait, c'est du 100%, quoi. Soit on reste ensemble, soit on reste pas ensemble. Donc, c'est très difficile de... Enfin, c'est pas possible de juger les gens, d'abord parce que ça sert pas à grand-chose, sinon à se faire du mal et à leur en faire. Par contre, éventuellement, on peut leur dire, faites attention quand même, posez-vous quelques questions, peut-être.
Marc est toujours avec nous. Marc, justement, ça fait 2 ans et demi, hein, ça, que vous êtes avec votre compagne aujourd'hui.
Oui.
Au début, donc, il y a eu la surprise pour certains, le jugement pour d'autres, voire les deux. Aujourd'hui, ça se passe comment au bout de 2 ans et demi? Est-ce que ça, le temps a passé? On comprend que vous êtes en couple, vous vivez ensemble, Marc? Ou pas?
Non.
Non, d'accord. Mais bon, en tout cas, votre couple, il a déjà 2 ans et demi, donc ça, c'est pas une amourette, c'est pas une amourette, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, ça s'est apaisé autour de vous?
Oui, après, on a fait le tri, on va dire.
Ouais, il a fallu faire le tri quand même.
Ben oui.
Oui, parce que il y a beaucoup d'hypocrisie, hein, de toute façon. Il y a aussi de la jalousie aussi. Et du coup, en fait, c'est notre vie à nous. Et on n'ira pas jusqu'à vivons cachés pour vivre heureux, mais bon, voilà. C'est pas qu'on est discret, mais on va voir les amis qui nous intéressent et avec qui on s'entend bien, et puis voilà, le reste.
Ce qui n'est pas plus mal, hein.
Oui.
Merci beaucoup, Marc, d'avoir été avec nous. Marc, merci. Qui nous appelait depuis le Val-de-Marne. Catherine, c'est vrai que moi, la première des choses qui me vient à l'esprit, quand je vois une différence d'âge comme ça, là, Marc, c'était 32 ans, je me dis, ça doit être dur, l'entourage, non?
Ben oui, ça peut être difficile parce qu'on imagine Marc et son ami, s'ils sont avec des personnes qui ont 59 ans, elle peut se sentir un petit peu décalée. Et s'ils sont avec des amis à elle qui ont 27 ans, lui peut se sentir un peu décalé. Donc c'est pas forcément évident en société, disons. Surtout que c'est vrai qu'on est dans une société qui est très par tranche d'âge. Il paraît que ça a jamais été autant par tranche d'âge qu'à notre époque. Vous voyez, les jeunes écoutent la même musique, mais ceux qui ont 10 ans de plus n'écoutent pas la même, etc. Donc, on n'est pas très fluide au niveau des générations.
Catherine, vous restez avec nous. Audrey nous rejoint au 32-16. Bonjour Audrey.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre. On est dans la Marne, c'est ça Audrey?
Oui.
Est-ce que je peux vous demander votre âge?
Je vais sur 46 ans.
46 ans, d'accord. Et vous êtes en couple?
Oui.
Avec un homme plus jeune que vous, c'est ça?
Oui, de 11 ans.
11 ans.
Oui.
Bon, on se dit que 11 ans, c'est pas grand chose. Ça va, quoi, 11 ans, Audrey?
Bah, nous, on le vit bien, en tout cas. Nous, on a pas la sensation.
Alors, que ça veut dire qu'il y a un mais.
Pas forcément, mais quand on s'est rencontrés, j'avais 36 ans, j'avais déjà 3 enfants. Mmh. Lui, il en avait forcément 25. Mmh. Lui, il en avait pas. Et donc, forcément, c'est plus sociétal, en fait. Il prenait quelqu'un qui était plus âgé que lui, avec un patrimoine déjà important, puisqu'on avait j'avais déjà 3
ça ans. Vous l'avez entendu quand même.
Ouais, ça oui. Plus dans ce sens-là. Peu tant sur l'écart d'âge au final.
Est-ce que vous avez entendu prononcer le Est-ce que vous avez entendu prononcer le mot gigolo?
Ouais, un petit peu. C'est quand on se moquait un petit peu au fait au début. Mais au final, la différence d'âge aujourd'hui, elle se voit pas. Ouais. Physiquement, ça ne se ressent pas, ça ne se voit pas plus que ça non plus.
Parce que vous faites très jeune, Audrey.
Oui, c'est ça. Je me complimente, mais et c'est vrai que du coup,
Je me doute.
Ces 11 ans-là, se voit pas. Et aujourd'hui, on va sur nos 10 ans.
Oh, bah voilà, formidable.
Et au final, c'est ça roule, quoi.
Catherine. Ben voilà un témoignage aussi qui est intéressant.
Oui, tout à fait. Mais il faut reconnaître que 10 ans d'écart, c'est pas pareil que 20 ou 32 ans.
Ouais. Ça, on est d'accord, Catherine. Malgré tout, là, il y avait une.
C'est vrai.
Ouais, mais sauf que là, il y avait une histoire. C'est-à-dire que Audrey, à 36 ans, je crois, l'a rencontrée. À 36 ans, elle avait déjà construit, comme on dit. Et c'est pas un jugement quand je dis ça, mais elle avait déjà bien construit sa vie. Elle avait déjà 3 enfants, etc. Son compagnon, à l'époque, avait 25 ans, c'est un petit jeune, donc on imagine que dans l'entourage, ça doit parler quand même.
Oui, c'est amusant parce qu'il y a beaucoup de femmes qui pensent que quand on a des enfants, on peut pas rencontrer quelqu'un. Ben non, là, Audrey, elle avait 3 enfants, elle a rencontré un homme de 10 ans de moins qu'elle. Et moi, j'ai une patiente qui avait 10 enfants qui a divorcé. Elle s'est remariée avec un homme de 10 ans de moins qu'elle aussi. Donc, c'est pas forcément rédhibitoire du moment qu'on a un caractère qui donne envie d'être avec vous, en fait. Hein.
Tout simplement.
Enfin, le coup présidentiel à NECAR, ça se passe très bien.
De se condenser,
Oui, à part les horribles rumeurs des saloperies, ils ont l'air heureux.
Pierre, en fait. Le présentiel, on a dit que ça a banalisé la chose. Je suis désolé, rappelons qu'il avait 15 ans, que c'est sa prof. Elle avait 35 ans.
Et alors?
Mais non, attendez, ça avait été l'inverse. Ça avait été un prof avec une fille de 15 ans, t'aurais dit quoi? Il était mineur.
Ben, c'est pas le cas.
Il y a un lien de subordination professeur sur élève. Je suis désolé, c'est interdit. On s'en fout la différence d'âge. Il y a un lien de subordination.
Enfin, le résultat,
concrètement, quand tu vois les choses, il avait 15 ans, il avait 35 ans.
Mais t'es vieux jeu,
mais c'est une prof.
Toi qui es de gauche moderne.
Moi, des étudiantes majeures, j'irai jamais.
Je remercie le docteur Catherine Solano. Merci à Catherine Solano.
Elle est effondrée, le docteur, quand elle t'entend.
Oui, merci à Catherine Solano d'avoir été avec nous. Catherine Solano, sexologue, cofondatrice de Doctical, la plateforme de télésanté. Merci à Audrey également, qui nous appelait au 32-16. Vous avez été nombreux à réagir sur les réseaux sociaux. Et alors là, le résultat de notre consultation, il est très intéressant aussi.
Oui, je pense qu'on pourra dire j'y étais, puisque le débat n'est pas tranché. C'est du 50-50, précisément. C'est extrêmement rare. Deux messages. Eric, quel est le problème? Ils sont adultes. Pour moi, si chacun y trouve son compte, j'en suis heureux, en parlant du mariage de Renaud. Et puis Jean-Marie qui dit, mes parents avaient 17 ans d'écart, ça n'a pas été une grande réussite, un écart de génération trop important.
Non, mais c'est un thème sensible. Allez. C'est un thème sensible, Rémi, tu es d'accord?
On est bien d'accord. Hein? L'amour, toujours.
Toi-même, tu as
vécu. Toujours sensible. Dans un instant, RMC, conso sur RMC, dans Estelle Midi, évidemment, les plats traiteurs. Vous savez qu'on vont dans les supermarchés.
Oui.
Il y a des rayons particuliers là. Ah, je vais me prendre un plat traiteur, c'est quand même de meilleure qualité que le reste. Mais justement,
c'est sûr.
Eh ben, on va voir ça. Ouais. Les plats traiteurs dans les, vendus dans nos supermarchés sont-ils vraiment préparés par des traiteurs? Bonne question. C'est dans un instant. Dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Estelle Midi, comme tous les jours, midi 15h sur RMC, RMC Story, le canal 23 de la TNT. Et Sabrine Mimouni nous a rejoint.
Estelle Midi,
RMC Conso.
Bonjour Sabrine.
Bonjour Rémi.
On va parler des plats traiteurs aujourd'hui, tarte salée, pâtes ou encore lasagne, on les connaît. Hein, les grandes surfaces proposent de plus en plus de ces plats préparés traiteurs, c'est comme ça qu'ils s'articulent. Sabrine, qu'est-ce qui distingue ces produits des plats en conserve ou des plats surgelés?
Alors, une des différences majeures, Rémi, c'est que sur les plats préparés traiteurs, tout est fait pour donner l'impression aux consommateurs qu'ils n'achètent pas un produit industriel. Déjà, on a cette notion de traiteur qui va être évoquée dans le rayon, mais qui sera aussi écrite sur le produit. J'ai juste ici un plat de pâtes que j'ai acheté 5€ chez Auchan au rayon traiteur.
Tagliatelle au saumon.
Tagliatelle au saumon, on peut clairement voir que la notion de traiteur est écrite sur le packaging, comme tu peux le voir, Rémi.
Votre traiteur vous propose?
Oui, tout à fait. Donc on a l'impression que c'est limite, ça vient d'être fait. Et puis sur ces bouchées aussi de fruits de mer que j'ai achetées chez Leclerc, la même notion est invoquée, donc on parle d'atelier traiteur cette fois-ci. L'autre différence qu'on peut retrouver entre les plats préparés traiteurs et puis les plats préparés classiques, c'est généralement la date limite de consommation qui va être beaucoup plus courte sur ces produits-là. Du coup, on peut par conséquent avoir quelques additifs et quelques conservateurs qui s'invitent dans la liste d'ingrédients pour pouvoir les conserver plus longtemps, justement.
Ah oui, voilà, forcément. Donc la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que ces plats... Je lis encore une fois l'atelier traiteur, donc on imagine un petit atelier avec 3-4 personnes qui confectionnent amoureusement ces bouchées, fruits de mer. Là, je vois que c'est votre traiteur vous propose. J'ai l'impression que c'est Jean-Michel, mon traiteur, qui me propose ces tagliatelles au saumon.
Est-ce que
vraiment ces plats sont préparés par des traiteurs?
Alors non, en réalité, on est plutôt sur des plats industriels. D'ailleurs, il faut savoir que la plupart des grandes surfaces n'ont pas de cuisine dans leurs locaux. Ouais. En fait, la réalité, c'est qu'ils font plutôt appel à des entreprises agroalimentaires qui vont leur distribuer ces produits-là. D'ailleurs, sur ce plat de pâte au saumon, on peut lire derrière qu'il est produit par une entreprise qui s'appelle What's Cooking. What's Cooking, c'est une entreprise belge, donc c'est une entreprise agroalimentaire qui distribue ses plats dans plus de 37 pays. Donc on est plutôt sur une fabrication de masse.
Ah oui, on est loin de l'atelier
complètement, on est assez loin.
Bon, si c'est pas vraiment des plats traiteurs qu'ils prétendent être, hein, c'est écrit, pourquoi les consommateurs continuent d'en acheter? Parce que ça se vend bien en plus.
Ça se vend très bien. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a l'argument du prix, parce que c'est des produits qui sont pas forcément plus chers que les autres plats préparé classique. Il faut compter en moyenne 4 à 6 euros pour une portion individuelle qui peut aller jusqu'à 450 grammes, donc c'est pas mal. Sinon, j'ai un expert en alimentation qui m'a expliqué qu'en réalité aussi, c'est des produits qui sont assez valorisés. D'ailleurs, on peut le voir, hein, on peut lire votre traiteur vous propose. Juste au-dessus, il y a une petite cloche, je sais pas si on la verra à la caméra, il y a une petite cloche qui donne l'impression que c'est un produit limite qui vient d'être fait, hein, que c'est un produit gourmand, que ça vient de sortir finalement de la cuisine. Toute cette stratégie marketing donne finalement l'impression que c'est un produit qui est plutôt bon, qui est plutôt gourmet, limite.
Et ça marche.
Complètement. Et d'ailleurs, 47% des consommateurs associent même une notion de plaisir à ces plats-là.
Bon, on va rentrer au cœur du sujet. Il y a quoi dans ces plats?
Alors déjà, il y a trop de sel, il y a aussi trop de gras. Sans surprise, j'ai montré les étiquettes à une diététicienne qui m'a expliqué qu'en réalité, on est très très loin d'un produit traiteur, puisqu'en fait, il s'agit même d'aliments ultra transformés, puisque dans l'étiquette, on a des composants comme l'amidon modifié, on a aussi des arômes, on a des émulsifiants, pardon. Donc on est finalement très très loin d'un aliment traiteur.
Bon, donc on va être clair, vaut mieux éviter d'acheter ces produits, non?
Alors non, pas spécialement, parce que c'est pas non plus des plats qui sont plus mauvais que les autres plats préparés.
Ouais, ils sont pas meilleurs.
Ils sont pas meilleurs, mais en fait la réalité c'est que les consommateurs ne doivent pas s'attendre à une qualité de traiteur en achetant ces produits-là. Et le mot de la fin ce serait que si les consommateurs veulent vraiment manger un aliment qui a une qualité traiteur, bah le mieux c'est de se diriger vers du fait maison ou vers des petits artisans de quartier aussi, c'est une possibilité.
Perico, juste un petit mot, très court, très très court.
Il y a le meilleur, il y a le pire.
C'est ça.
Alors, c'est bon gustativement parce qu'ils savent le faire. Et il peut y avoir des choses qui sont vraiment industrielles, bas de gamme, contestables dans les ingrédients, et vous avez dans l'industriel, en traiteur, des choses qui sont tout à fait respectables. Oui. Ça ne sera jamais ce qu'on mitonne à la maison. À
exactement. Merci de terminer voilà. Là-dessus. Merci beaucoup, Perico. Merci, Sabrine. On se retrouve évidemment demain.
Ce sera Charlotte Mélitant.
Ah, ça sera Charlotte. Très bien, très bien. Ce sera Charlotte. Sabrine, merci. Dans un instant, les immanquables d'Alfred. On va parler de quoi, notamment?
On parlera de Marine Le Pen qui a appelé ce matin chez nous sur RMC à un état d'urgence sécuritaire et migratoire pour faire face à l'insécurité à Marseille.
Allez, c'est tout de suite dans Estelle Midi sur RMC et RMC Story.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Rémi Barré.
Estelle Midi, midi 15h sur RMC et RMC Story. Vous avez peur d'avoir manqué quelque chose dans l'actualité aujourd'hui? Heureusement, Alfred est là.
RMC, Estelle Midi,
les immanquables.
Les immanquables avec Alfred Orange. Alfred, on commence par la déclaration du jour.
Oui, elle est signée Marine Le Pen, invitée ce matin sur RMC, alors qu'elle était interrogée par une auditrice sur l'insécurité à Marseille. La chef de file des députés RN a appelé à un état d'urgence sécuritaire et migratoire dans la cité phocéenne, assurant notamment qu'une partie de l'insécurité est la conséquence de l'immigration clandestine.
Pierre Rondeau, on est dans la surenchère ou pas ?
On est dans la surenchère qui répond à un impératif, un objectif politique. Hein. On a toujours ce côté, ce sentiment d'insécurité qui explose. On le voit d'ailleurs, ça a été dit au début de l'émission.
À Marseille, pour le coup, à Marseille, c'est pas un sentiment.
C'est vrai, mais au-delà de ça, ce qui est sûr, c'est que le RN aujourd'hui, avec Jordan Bardella, est à 32% des sondages. C'est le premier parti d'opposition. C'est même le premier parti au niveau des sondages, que ce soit pour les présidentielles ou pour les européennes. Bien évidemment qu'il y a une demande de la part des électeurs pour les thèses soutenues par le RN. Après, parler d'état d'urgence, de contre la folie migratoire, il faudrait vraiment poser le lien, et ce qui est ou pas avéré, entre flux migratoire et délinquance. Je rappelle que la France, au prorata de sa population, est l'un des pays en Europe qui accueille le moins de personnes. Donc, établir, alors que je rappelle même qu'en France, on a interdit toute forme de statistiques ethniques.
Est-ce qu'il faudrait les autoriser, tiens? Alors, parce que c'est un vrai débat,
alors,
ça.
Moi, en tant que travaillant à l'université et lisant beaucoup de devoirs et de travaux universitaires, je suis totalement pour et partisan des statistiques ethniques pour qu'on dise une bonne fois pour toutes, oui, ou non, il y a un lien entre délinquance et immigration. Mmh. Aujourd'hui, c'est uniquement un sentiment. On n'a aucune preuve chiffrée, étayée, objective sur le lien. On pourrait dire, oui, moi, mon cousin... Et tout. Non, ce que je veux, c'est une preuve du factuel. Tant qu'on l'interdit, on aura Fred Armel qui dira, oui, mais voilà, moi, je ne le sais pas. J'entends des témoignages. On n'est pas dans une politique de témoignages, on est dans des faits. Si on me le démontre, je serai le premier partisan.
Non, mais...
En l'état actuel des choses, je n'ai aucune preuve. Et je sais même, la seule preuve que je peux avoir, c'est que la France, au prorata de sa population, est le pays en Europe qui accueille le moins d'étrangers.
Alors, les statistiques ethniques sont interdites pour le moment. Je suis d'accord pour qu'on mette les choses sur la table, pour qu'on regarde les choses. Moi, je suis pour les statistiques ethniques. Mais il y a des statistiques qui sont autorisées. C'est la différence entre les ressortissants nationaux, quelle que soit leur ethnie, c'est-à-dire les Français, voilà, gens qui ont un passeport français, qui sont français, voilà, et les étrangers. Ça, on a le droit. Et d'ailleurs, les chiffres du ministère de l'Intérieur montrent par exemple
l'origine.
Que les agressions dans les transports en Île-de-France sont majoritairement faites par des étrangers.
Je ne connais pas leur origine.
Non, tu ne connais pas les étrangers.
Oui, mais je ne connais pas l'origine.
Le flux migratoire, disons les choses, c'est le racisme anti-africain. Ces chiffres officiels du ministère de l'Intérieur disent qu'il y a une proportion grande d'étrangers parmi les personnes qui sont arrêtées
pour... Peut-être un touriste américain qui va aller voler.
Différentes faits de délinquance. Non, non, mais ça, c'est une réalité. Donc, alors peut-être que tous les étrangers sont suédois, comme tu le penses.
J'en sais rien.
Ou belges.
Je n'en sais rien.
Mais en tout cas, c'est un fait. Des étrangers commettent plus de délits dans les transports dans l'Île-de-France que les Français, quelle que soit leur ethnie.
Le constat est acté, mes amis. Pierre, tu me fais de la peine. Tu rentres dans le piège du Rassemblement national en disant, bien sûr qu'il y a des étrangers pas intégrés, mais il y a aussi des Français qui sont pas intégrés,
bien sûr,
sont pas étrangers.
Mais bien sûr.
Donc l'ensemble, c'est la fracture sociale. Et forcément, une migration non contrôlée dans un pays en demi-récession économique, qui peut pas donner du boulot, dont l'école n'intègre pas, bien sûr que ces étrangers
mais
vont être...
Mais c'est plus ça, ce débat.
Mais oui, mais
et
donc,
je rejoins là-dessus, c'est pas le flux migratoire.
Donc le problème, c'est pas de savoir c'est la faute à qui, d'où vous venez étranger, c'est de savoir ce qu'on fait par rapport à cette population qui n'est pas intégrée, qu'elle soit d'origine nationale ou d'origine extérieure. Tu as aujourd'hui des gens qui sont dans la fracture sociale, avec des territoires particuliers. comme Marseille, le phénomène est ancien. Aujourd'hui, ça prend des proportions épouvantables parce qu'en plus, la carence de l'État qui n'arrive plus à remplir ses devoirs, il faut voir les déclarations de Gérard Darmanin qui ne sont pas reprises par les médias. Ce qu'il dit, mais même publiquement,
il est quelque part.
Il est plus inquiet et lui, il sait de quoi il parle. Mais lui, elle fait un jeu électoral en disant, voyez, elle fait de l'anti-Mélenchon en disant ça, voyez, bon, l'étranger est un danger. Bon. Tout individu, toute femme, tout homme qui arrive d'où qu'il vienne, qu'il arrive du Nord, Pas-de-Calais, ou qu'il arrive d'Afghanistan ou du Mali, s'il n'est pas intégré, s'il est dans la pauvreté, ouais, s'il est confronté à la fracture sociale, il va à un moment donné...
Je te rejoins à 100 000%.
Oui, mais ne le nions pas.
Non, mais d'accord.
Mais je m'en fous de nationalité.
Principal problème est le champ sémantique du RN, c'est le flux migratoire. On parle de fracture sociale, on parle d'intégration, d'échec des services publics. Et là-dessus, je suis d'accord.
Mais donc le flux migratoire n'est pas contrôlé. Un problème.
Oui, sauf que, et c'est vrai que je vais aller dans le sens de Pierre, ce que dit clairement Marine Le Pen, c'est que l'insécurité est la conséquence de l'immigration clandestine.
Oui,
Elle ne dit pas que l'immigration qu'elle juge incontrôlée en France est l'une des sources de la hausse de la délinquance. Elle dit que la délinquance est consécutive de l'immigration, c'est-à-dire que ce sont les immigrés qui sont délinquants. Voilà ce qu'elle dit. Donc, mais faut pas jouer sur les mots non plus.
Je ne suis pas d'accord avec elle, mais moi je pense que l'immigration est l'une des causes de l'insécurité.
Voilà. On a pas la même lecture qu'elle, mais les mots sont les mêmes.
Le coup d'arrêt du jour
à destination de la shrinkflation, ce procédé qui permet aux fabricants de réduire la quantité des produits vendus en ne changeant pas le prix. Eh bien, ces pratiques commerciales ont du plomb dans l'aile puisque dès le 1er juillet prochain, les supermarchés devront informer les clients en apposant une étiquette sur l'emballage pour avertir que la quantité du produit a changé. Ce sera écrit noir sur blanc pour mieux prévenir ce genre de pratique. Le gouvernement veut y mettre fin et en cas de manquement, l'amende pourra atteindre 15 000 euros pour un distributeur qui ne s'y soumettrait pas.
Bonne mesure, Perico.
Eh ben, je veux dire bravo. Bravo. Alors, pas bravo à l'agroalimentaire et au pouvoir public, bravo aux associations, mais surtout à des médias comme les nôtres qui ont porté à la connaissance du public ces dérives avec des campagnes, des émissions à répétition, il y en a ras-le-bol. Oui, et ben c'est le fait que le consommateur ait pris conscience, qu'il se fait gruger sur la quantité avec le même, voilà, c'est ça qui a obligé les pouvoirs publics à contraindre les industriels et les grands distributeurs, parce que le départ, c'est pas l'industriel une fois de plus, c'est la grande distribution qui lui dit je vais te réduire ton prix d'achat. Qu'est-ce que peut faire l'industriel? Ben je vais te réduire la quantité, mais attention, faut pas que le consommateur le voie. Mais au départ, c'est le grand distributeur qui incite à faire la saloperie. C'est pas l'industriel qui veut gruger.
Et qui accuse toujours l'industriel.
Et toujours l'industriel, le méchant industriel. Quand c'est le grand distributeur qui a dit tu te démerdes, moi je te donne 3 centimes en moins du litre, bon ben je vais réduire de 15 centilitres. Voilà. Et c'est l'industriel qui apparaît comme un salaud.
Fred.
Ah ben tout à fait d'accord. C'est vraiment une très. L'information du consommateur est essentielle. Au moins on sait ce qu'on fait. On sait. Voilà. Après, on veut se faire avoir. On veut se faire avoir. C'est ok.
On saura.
Mais tout le monde sait lire et tout le monde a le droit de choisir en conséquence. Et c'est dommage que le combat de notre ami Stéphane Manigault ne soit pas allé au bout et que quand on va dans un restaurant, on n'y ait pas cette notion de.
Ça vient.
Parce que moi, quand je veux sur la, je veux savoir si c'est fait maison.
Mais sur la question de la distribution et des industriels, je rappelle que selon une étude, 60% de l'inflation alimentaire n'est pas due à des conséquences exogènes, guerre en Ukraine, conflits et autres, mais sont dus à un maintien des marges de la part des distributeurs. C'est aussi artificiellement un coup d'opportunité, une espèce de conscience d'augmenter les prix pour augmenter ses marges.
Et justement, d'augmenter en profitant de la guerre en Ukraine, etc., du contexte géopolitique pour dire c'est pas notre faute, c'est en Ukraine. Là, on s'est rendu compte qu'en fait, tout était fabriqué en Ukraine d'un coup. Tu vois, donc.
Alfred, le coup d'accélérateur du jour.
Oui, il vient du gouvernement qui doit signer aujourd'hui un nouveau contrat avec l'industrie automobile pour tripler les ventes de véhicules électriques d'ici 4 ans. Aujourd'hui, 300 000 voitures électriques sont vendues chaque année en France. L'objectif, c'est de passer à 800 000 d'ici 2027. Un moyen de préparer le pays à l'échéance européenne parce qu'en 2035, 100% des voitures neuves devront être électriques.
Les Allemands commencent à dire qu'on ne va jamais réussir à atteindre l'objectif.
Oui. Ah bon ? C'est étonnant.
Oui, ils disent on s'est vu trop beau, 2035, c'est pas possible.
Et là, on l'avait senti avant. On a n'a pas entendu les Allemands pour le sentir.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est en plein dans le débat des élections européennes, et il y avait justement un sujet sur le tout électrique et la production industrielle européenne des voitures et des batteries électriques. Il y a le problème vis-à-vis de la Chine. La Chine commence à prendre beaucoup d'importance. Certains voudraient taxer les importations chinoises. Le souci, c'est que si d'un côté, on veut imposer à ce que tout le monde ait une voiture électrique en taxant les importations chinoises qui produisent 80% des voitures et des batteries électriques, soit ça va attaquer le pouvoir d'achat, soit on va jamais réussir.
Ouais.
Donc, voilà, ne pas mettre la charrue avant les bœufs, soit on développe l'industrie européenne et après on taxe. Mais là, on veut taxer les Chinois et imposer le tout électrique. On va jamais réussir.
La voiture électrique est une hérésie sociale et environnementale.
Ça dépend. Alors, environnemental, il y a un débat. C'est pas
possible. Les petites voitures, non.
Bah oui.
Mais dès qu'il y a 4-5 places, là, c'est une catastrophe. C'est un non-sens. Moi, je suis pas contre une petite Zoé, une petite électrique en ville. Moi, je trouve ça très bien. Je suis pas dogmatique, moi. Moi, je regarde simplement les chiffres. Et une grosse voiture, c'est-à-dire, si on veut continuer à avoir des grosses voitures et les avoir électriques, c'est une catastrophe sociale. Parce que on n'arrive pas à les produire en France, donc on casse notre industrie, et en plus on renforce les Chinois, et en plus d'un point de vue écologique c'est un désastre.
J'allais dire, c'est un problème structurologistique. C'est comme le nucléaire, c'est génial, mais il y a le problème, qu'est-ce qu'on fait des déchets?
Il n'y a pas de problème des déchets nucléaires. On sait gérer.
Arrête.
C'est beaucoup plus facile de gérer les déchets nucléaires.
On n'est pas sur le nucléaire.
Que de gérer le lithium des batteries de voiture.
La voiture électrique est la solution. Pour l'instant, c'est pas tout à fait au point. Il y a des carences, il y a des problèmes de batterie, il y a des problèmes de fabrication. On dit oui, à Dunkerque, il va y avoir. Mais on a pris beaucoup de retard. On a laissé faire. Les Chinois sont là. Le chef d'État, le président est là. Aujourd'hui, tout ça, ça pourrait être de l'européen. On est en train d'abandonner les panneaux solaires. C'est un autre sujet, je suis d'accord. Donc, la voiture électrique est bien l'avenir. À moins qu'on trouve le moteur à hydrogène aussi. Attention. En tout cas, 2035, on aura trouvé une solution en 2035 pour remplacer le moteur thermique par un moteur qui fera pas de bruit.
Allez, la douloureuse du jour, très rapidement. Il va falloir laisser un billet pour prendre le bus à Paris pendant les JO.
Oui, parce que le ticket va coûter 5 euros. Aujourd'hui, c'est 2,50 €. Et bien, du 20 juillet au 8 septembre, il faudra payer le double. L'objectif de la RATP avec ces nouveaux tarifs, c'est donc de financer l'offre du transport lié au flux exceptionnel de voyageurs. On savait pour le métro et maintenant, on sait pour le bus.
Voir le verre à moitié vide, voir le verre à moitié plein. On est au courant. On peut stocker des billets, on peut le faire sur son smartphone. L'immense majorité des Parisiens, des Franciliens ont déjà un pass mensuel ou annuel, c'est essentiellement les passes jour et 95% des passes jour sont achetés par les touristes. Ça ne me dérange pas de faire payer des touristes japonais
pour financer le transport,
pour financer 30% de flux en plus durant les Jeux Olympiques.
D'accord,
voilà,
pas mal.
Oui,
bonne argumentation.
Je suis plutôt d'accord avec Pierre là-dessus. Parce que je suis très égoïste, hein. Tant qu'on touche pas mon pass Navigo, moi ça me va. Hein. Mais non, mais je réagis comme tout le monde. Hein. Je suis un citoyen, moi, vous savez.
Perico.
Pas d'avis.
Très bien.
Il a son chauffeur.
Merci beaucoup. Merci Perico. Allez, c'était la fin des immanquables. Et tout de suite, on va recevoir qui, à votre avis?
Vincent.
Qui a toujours rien compris.
RMC, Estelle Midi.
Seroussi n'a pas tout compris.
Bon, d'accord. Salut Vincent. Pour être juste, c'est Vincent n'a pas tout compris. Mais on va le vérifier.
Exactement.
On va le vérifier.
Tout à fait juste, c'est Seroussi n'a pas tout compris.
Donc t'as compris quelques trucs, apparemment. Aujourd'hui, Vincent, tu ne comprends pas, en tout cas, pourquoi on parle de l'écart d'âge entre Renault et sa nouvelle femme.
Rassurez-vous.
Obligé. Belle banane hein, pour Renault. Oui, je mets du Renault, c'est quand même mieux que d'entendre Fred chanter. Hein.
Tu es le printemps, moi l'automne. Mon cœur se bat. J'attends.
J'attendais ça.
Faux départ pour Fred. En plus, on parle de Renault.
Parti tout de suite.
Chante du reste d'amour. Bon, il n'y a rien qui va. Quoi.
En tout cas, c'est vrai que Renault s'est marié. Très beau mariage entre Renault, donc une légende de la chanson française, et Cerise, une légende de la publicité Groupama. Deux légendes, finalement. Ouais. Oui, c'est vrai que la nouvelle femme de Renault s'appelle Christine, mais Renault l'a rebaptisée Cerise parce que quand il l'a rencontrée, elle avait des boucles d'oreilles en forme de cerise. Heureusement qu'elle n'avait pas des boucles d'oreilles en forme de tub.
Ils ont quand même 30 ans d'écart.
Ils ont 30 ans d'écart, oui, mais ça reste une belle histoire. Apparemment, ils sont tout de suite plus tombés amoureux. Pour Renault, c'était un peu marié au premier écart. C'est très touchant. Alors oui, c'est vrai que Renault et Cerise ont beaucoup d'écart. Renault a 71 ans. Bon, du coup, c'est pas l'homme qui prend la mère, mais c'est la femme qui prend le grand-père. Voilà.
Oh, c'est joli.
Pas mal, t'as vu? Ouais, pas mal. Bon, Renault et Cerise ont 30 ans d'écart. Moi, franchement, ça me gêne pas. À cet âge-là, hein, évidemment, parce que si Renaud avait eu 41 ans et elle 11 ans, bon, pas trop un mariage, là c'est plus une journée dans la vie de Brigitte Macron, c'est différent quoi.
Bon, en tout cas, tu vois que ça existe déjà dans les couples, écart d'âge.
Ça existe, et d'ailleurs Pierre a tenu à nous rappeler certaines règles sur le mariage.
Dès lors que ça peut être ton fils ou ta fille, c'est non, c'est pas possible.
Voilà, on ne sort pas avec son fils ou sa fille. Hein. Merci Pierre de nous l'avoir rappelé. Bah, Pierre est un pro, il et connaît voilà. très bien. Bien sûr, mais vous savez combien Pierre a eu de conquêtes?
17, 18, 19, 20, 30, 40.
Plein. Plus encore, c'est un vrai professionnel. Non, mais je me fous de Renaud et Cerise, mais en vrai, ils ont l'air très heureux et ça fait plaisir à voir parce que la dernière fois qu'on a vu Renaud sourire, Perico était maigre et Fred avait des cheveux, donc c'est pour vous dire, voilà.
Bon, Vincent, dans l'émission, on a aussi parlé d'Éric Ciotti. Éric Ciotti qui propose de rendre public le nom des consommateurs de drogue.
Bah, c'est une très bonne idée pour les dealers. Enfin, je veux dire, tu fais une liste des consommateurs à Porte de la Chapelle pour les dealers, c'est une base client directement. Ils vont être là. Vous pouvez rajouter les adresses aussi, comme ça, on peut les livrer directement. Encore une idée inutile, c'est inutile. Et puis, rendre public, ça veut dire quoi? Ils vont les mettre où, les noms? Ils vont créer encore un nouveau site web, www.lesfrançaisdrogués.gouv.fr. En plus, ça tombe mal, le nom du domaine est déjà pris par l'Académie des Césars, donc ça n'a aucun intérêt.
Bon, à propos de drogue, on a aussi parlé des entreprises qui aident leurs salariés à arrêter de fumer.
Ouais, en tout cas, c'est pas RMC hein, qui l'a fait, sinon Rémi, t'aurais pas fumé trois roulés pendant la dernière coupure pub.
C'est vrai.
Là, c'est l'usine Toyota à Valenciennes qui propose un programme de lutte contre le tabagisme à ses salariés. Écoutez, j'ai envie de vous dire déjà qu'ils habitent dans le Nord, laissez-les au moins fumer des clopes, quoi, les pauvres. Non, mais c'est vrai, nos péchés mignons, c'est notre problème. C'est comme si RMC incitait Perico à arrêter de manger de la tête de veau au petit-déj.
Ah non.
Bah oui, on fait ce qu'on veut. Bientôt, tu vas devoir parler de tes problèmes perso au taf. Ce mec qui va arriver, bonjour, je m'appelle Roger, je travaille dans une usine Toyota à Valenciennes. D'accord, Roger, quels sont vos problèmes perso? Bah, je viens de vous le dire, je travaille dans une usine Toyota à Valenciennes. C'est n'importe quoi.
Bon, donc tu penses pas que c'est une bonne mesure?
Bah, pour moi, c'est surtout un bon coup de pub, quoi. C'est juste Toyota qui a envie de dire, voilà, nos voitures ne dégagent pas de fumée nocive et nos salariés non plus. Là, après, il y a une raison pour laquelle je suis pour, c'est que ça va supprimer les post-clubs. Voilà.
Oui.
Bah oui, et du coup, pas de post-club, donc tu supprimes en même temps les Josiane qui te racontent pendant 3 heures leur dernier week-end à Saint-Rémy-les-Brouettes, et ça, c'est une très bonne nouvelle.
Voilà. Merci beaucoup, Vincent. Allez, tout de suite, c'est le super Moscato Show. Il arrive, Vincent. J'étais inquiet, je ne l'apercevais pas, mais il est là, évidemment. Salut, Vincent, comment vas-tu?
Ça va? Écoute,
bon, et Toulouse.
On s'accroche.
Toulouse.
J'ai pensé merveilleux, ouais. Toulouse, Leicester, en finale. Ça va être une grosse finale. C'est extraordinaire. Coupe d'Europe qui a l'avantage psychologique,
ouais.
Je ne sais pas,
non.
Je le dis sincèrement, parce que je ne sais pas si vous connaissez Leinster, cette province est extraordinaire, c'est une première ligne de feu, peut-être une des meilleures premières lignes du monde, donc on va se régaler, on va en parler, le PSG peut-il être confiant?
Non.
Dortmund?
Non, mais vous étayez pas, vous avez fait, vous avez envie de partir. Très bien, bon. Longoria est-il toujours l'homme de la situation? On parle de Marseille.
Non, oui.
Non.
Ça, c'est la minute.
La
minute humaine.
Ça, c'est vous voyez, bien sûr, Marseille, c'est sur comédie. Le tennis manque-t-il de grands champions?
Ah, mais il y en a qui parlent. Là, il y en a qui sont.
Depuis la mort de Yannick Noah, c'est.
Ah oui.
On a du mal à. Excusez-moi.
Et le compte.
Non.
On n'est pas loin. Et donc, on va parler de tout ça. On va parler de tout ça.
C'est très joli. Très joli programme.
Un programme de fou. Après, on parlera des hommes de l'ombre de Toulouse, parce qu'on parle toujours de Dupont. Il y a Cross, le troisième ligne. Cross, oui, pas le fils de Christopher. Le vrai Cross, celui qui joue en troisième ligne.
Ah, pas celui qui joue au Real.
Pas celui qui joue au Real. Non plus, voilà.
Et il est vivant.
Ah, il est vivant, ouais. Mais bon.
Ça va vite.
Ça va vite. Oh,
merci beaucoup.
En 3 jours, on t'a pris un truc lundi, le mercredi, t'es plus loin.
Merci Vincent.
C'est ça le truc.
Très belle émission. Le super Moscato Show, tout de suite. Et
bonjour à Lille dans le Nord.
Et c'est ma vie. Et c'est très bien comme
c'est
ça.
C'est dur, ouais.
Non, c'est bien. C'est très bien. Je vois des gens comme Fred qui sont très sympathiques ici dans la région.
Tout jeune.
Allez, on se retrouve demain. Estelle Midi sur RMC et RMC Story. À demain. Bonne émission.
RMC jusqu'à 18h.
Le Super Moscato Show.